Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, podcast 332. On va revenir sur une semaine d'actualité très chargée aujourd'hui avec Rami.
Bonjour.
Julien.
Salut à tous.
Et Julo.
Salut.
On passe immédiatement au sommaire
incroyable
de l'émission.
Incroyable.
Nous allons aujourd'hui nous tourner vers la GDC, car tous les yeux du monde entier étaient rivés vers San Francisco avec la Game Developers Conference, où on a pu découvrir notamment l'intérêt pour la réalité virtuelle qui est de plus en plus important, les Steam Machines aussi, et une petite GTX Titan avec 8 milliards de transistors et 12 gigas de mémoire. On en parlera pas tout à l'heure, mais j'avais envie de la placer parce que il faut passer un petit peu de PC de temps en temps. Ensuite nous parlerons de Helldivers, un jeu surprenant que Julo est en train de tester en ce moment. Il vous en parle tout à l'heure, ça fait un peu Destiny.
J'ai presque fini.
Je pense même que t'as déjà le test sur Gameblog.
Bon, alors le test est déjà sur Gameblog effectivement. Et pour finir, nous reviendrons sur Final Fantasy XV auquel Julien a joué en exclusivité.
10 ans qu'on l'attendait quand même.
À chaque fois tu disais 10 heures, que t'as vu pendant 10 heures.
10 ans, attends, c'est un truc de fou. Moi, ça fait 10 ans que j'attends ce jeu. Au moment où l'écran s'est allumé, où j'ai pu mettre la main sur la manette et appuyer sur Start, j'ai eu une petite émotion.
C'est vrai.
Je le confesse.
Tu nous la décriras tout à l'heure, cette émotion, mon bon Julien. Avant ça, eh bien, nous allons passer.
Ah oui, c'est le
win de la semaine, mais on va pas en faire un, on va en faire deux aujourd'hui. D'abord, je me tourne vers toi, Julien, parce qu'il y en a un que t'as envie d'aller casser.
Bah
si
oui,
vous êtes premium.
Juste derrière nous. Juste derrière nous, un superbe poster, The Usual Gameblog, une aventure céleste cosmique, 8 ans et pas une ride. Bon, ça, c'est pas si vrai. On la doit à Captain Ichiro, qu'on salue bien bas.
Merci,
qui
Captain.
Qui a participé comme d'autres. C'était les 8 ans de Gameblog, donc il y a quelques jours. Il a envoyé tout ça à la rédac et tout. Bah, merci infiniment. Il a gagné comme ça son abonnement annuel premium Gameblog.
Un abonnement à vie, hein, parce qu'il m'a donné le meilleur rôle. Donc,
c'est vrai. Qui est Kaiser Soze?
Je me demande, tiens, qui est
qui
Kaiser
Soze? Qui nous maîtrise tous ses plumeaux.
Et effectivement, je vous ai bien eu.
Donc, merci. Et merci à tous ceux qui ont participé, etc. On envoie un autre ici. Enfin, voilà, vous êtes tous au top.
N'hésitez pas, plein de dessins.
Plaisir.
Surtout des montages avec Julien, rappelez-vous.
Oui,
c'était quoi déjà que on avait fait comme ah mince.
Mais on n'avait pas fait ça.
Si.
Tout seul.
Il y avait eu un truc. Non, il y avait un truc qui était arrivé, un jeu de mots et je sais plus ce que c'était. Ah
je
mince.
Je me rappelle plus.
Ah là là. Il y avait qu'une personne qui avait participé. Bref, je retrouverai. C'était sur Twitter. Bref, Julo.
Ça avait l'air bien.
le win de la semaine.
Eh bien,
ça concerne
les développeurs, les moteurs graphiques et donc la GDC, puisque la GDC, ça a été l'occasion pour la communauté des développeurs d'apprendre plein de choses sur les moteurs qu'ils utilisent pour créer les jeux. Mm-hmm. Et notamment le fait que l'Unreal Engine 4, donc le moteur d'Epic, est désormais gratuit.
C'est pas
alors,
vrai.
C'est vrai et c'est pas vrai. Enfin, c'est gratuit, mais les développeurs qui utilisent ce moteur doivent reverser 5% des recettes qu'ils font grâce à leur jeu, tout du moins passer la barre des 3000 premiers dollars. Mm-hmm. À partir de là, c'est 5%. Sont exclus quand même les architectes et les films, les projets liés à l'architecture et au cinéma, qui eux n'ont pas de
à
reverser,
zappé,
voilà, apparemment. C'est peut-être pour attirer un nouveau public en dehors des développeurs de jeux traditionnels. Voilà, et puis à noter que ceux qui avaient il y a depuis un an en fait, Epic proposait un abonnement mensuel. Mmh. Voilà, tous ceux qui avaient cet abonnement là et qui ont appris la nouvelle là seront remboursés du dernier abonnement. Voilà.
Unreal Engine 4 dont on a pu voir quelques prouesses d'ailleurs sur Gameplay.
C'est impressionnant. Ouais.
Quelques vidéos, c'est quand même, ça tabasse. Hein. On peut dire ce que c'est. D'ailleurs, vous pouvez le voir là tout de suite. Si vous êtes premium, il y a du Unreal Tournament là qui est en train d'être montré. L'alpha est toujours en progression et bon, on n'a pas encore commencé des parties là, mais on va pas tarder à s'y mettre. Mais ça a l'air de bien fracasser aussi.
C'est une annonce qui est importante, hein. Mais en fait en trompe-l'œil.
Oui. Tu dis ça par rapport à Unity ou
non ouais, au global en fait. Ça veut dire que effectivement ils le rendent disponible gratuitement de base, mais les royalties sont quand même importantes. Hein. Ça veut dire que si le jeu cartonne, eh ben ouais, 5% d'un jeu qui fait 1 million de dollars de bénéfices ou de chiffre d'affaires, tu sais, ça va très vite et ça te coûterait potentiellement plus cher que si t'avais payé le truc de base. Bah c'est pas négligeable.
Bah, quand t'as gagné 1 million, si ça y est, c'est une.
Mais
c'est un cure-dent.
Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'en faisant ça, ils vont permettre à des gens, et ça Rami peut nous en parler, qui sont dans le monde du développement, mais qui font pas forcément des jeux qui se vendent derrière, de se familiariser avec les outils, d'avoir une plateforme extrêmement puissante et donc d'apprendre là-dessus, et donc après, lorsqu'ils vont rentrer dans le monde du développement, de rester sur Unreal.
De pouvoir d'avoir déjà un bagage avec Unreal, et c'est vraiment super intéressant de l'offrir à tout le monde pour qu'on puisse se faire la main dessus. Et c'est vrai qu'il y a une vraie bataille en fait des middleware avec Unity, le prochain source. Mm-hmm. Du coup, ça ouvre tout un pan de développement aux petits développeurs amateurs que moi je suis en tout cas. Et que c'est vraiment cool, quoi.
Et bien justement, tu parlais, justement. Ouais, tu parlais de la bataille. Bah, il y a Unity 5 qui a été, dont la sortie imminente a été annoncée là à la GDC. Donc eux, ils changent pas vraiment leur modèle économique. C'est toujours 1 500 $. Enfin, c'est en réalité un tout petit peu plus parce qu'avant c'était 1 400 et quelques $. Maintenant, c'est 1 500, mais ça inclut des librairies qui n'étaient pas incluses avant et qui coûtaient 500 $. Donc finalement, les gens qui utilisaient Unity seront gagnants
et
au niveau du prix.
Une version gratuite, hein, mais qui est un peu bridée.
Et
mais
une version gratuite qui, elle, est complètement bridé, mais qui est réservé aux boîtes dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 100 000 $. Donc ça concerne vraiment que les plus petits des développeurs. Les gros, eux, doivent quoi qu'il arrive payer, n'ont pas accès à la version gratuite. Et surtout, contrairement au moteur d'Epic, là, il n'y a pas de royalties. Et d'ailleurs, pendant la GDC, c'est assez rigolo, mais il y a Richie Tello, qui est le patron de Unity 3D, qui était à l'époque le patron d'Electronic Arts, qui a lancé un petit tacle, à Epic en disant « Vous pouvez avoir toute la puissance de Unity 5 gratuitement. C'est simple, il n'y a ni royalties ni conneries de ce genre. On peut considérer que les royalties ressemblent un peu au modèle free-to-play. Ils essayent de vous appâter, puis d'exploiter cette relation. » Ce n'est pas ce que nous voulons faire.
C'est bizarre de la part d'un mec qui a quand même beaucoup misé sur les DLC quand il était chez EA.
Qui bossait quand même chez Electronic Arts.
Ouais, je pense qu'en termes de free-to-play, il savait se démerder aussi. Hein.
Ouais, en même temps, il sait de quoi il parle. Voilà,
oui, c'est de la politique.
Mais dans tous les cas, voilà, c'était un petit tacle de Unity qui, lui, est payant. Alors que
c'est la guerre.
Voilà, c'est la guerre.
C'est vraiment la guerre des moteurs graphiques. Quoi.
Et troisième nouveauté quand même pendant cette GDC, c'est le moteur de Valve, cette fois Source Engine 2, qui a été dévoilé là. Et qui, lui, est gratuit également. Voilà, donc... Source Engine gratuit aussi. On sait que le précédent Source Engine, c'est celui qui a donné naissance à Half-Life 2, notamment. Pas de Half-Life 3 d'ailleurs, hein, parce que les gens du coup attendaient à Half-Life 3 avec l'annonce du
avec
nouveau
du
moteur.
Vive
et
aussi.
Ben non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Pas de Half-Life 3 à la GDC. Mais donc un moteur qui est gratuit et qui, alors là pour le coup, encore un modèle économique différent. Il est gratuit seulement et seulement si les développeurs assurent que le jeu exploitant ce moteur sera disponible dès son lancement sur Steam. Pourquoi il s'assure de ça? Parce que Steam se met dans la poche quand même 30% de chaque vente de jeu.
C'est pas négligeable.
Et c'est pas négligeable. C'est-à-dire que voilà, tout le monde sait que Steam, c'est la plateforme dominante. Ils veulent que ça le reste. Donc le moteur, on vous le file gratos. Mais par contre, il faut que votre jeu sorte sur Steam. Parce que nous, quand ça sort sur Steam, on l'a, on récupère 30% des bénéfices, quoi. Voilà.
Très bien. Et le CryEngine dans cette histoire?
Bon, le CryEngine, je vais laisser Rami en parler parce que honnêtement, j'ai l'impression que c'est pas le moteur du pauvre entre guillemets, parce que moteur. Mais le truc, c'est qu'il est très peu utilisé.
C'est pas un moteur que moi, pour ma part, en tout cas, que j'utilise énormément.
Pourquoi il est difficile d'accès? Il est cher.
Il est
mauvais.
Et puis c'est pas le plus intéressant en fait. C'est pas celui qui ouvre le plus de perspectives comparé à un Unreal Engine ou à un Steam où il y a vraiment une communauté qui est vraiment déjà présente.
Alors que le CryEngine, je vois Crysis 3, ça permet quand même des choses assez somptueuses.
Oui, mais là c'est par les développeurs du moteur.
Ouais, à part Crytek, ils sont pas très 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 nombreux à l'utiliser.
Dans l'industrie, à part Crytek, c'est limité. Sachant qu'en plus il faut un abonnement de 9,90€ par mois.
Oui, alors modèle économique, c'est uniquement cet abonnement mensuel.
Cet abonnement, mais t'as pas de royalties si tu payes cet abonnement en tout cas.
D'accord.
Très bien. Bon, on en a fini avec
voilà, c'est la guerre des moteurs.
Cette histoire de moteur graphique
pour les devs, c'est cool.
On a fini là aujourd'hui, mais pas dans l'avenir, pas à l'avenir, parce que ça va vraiment être une guerre épique, c'est le cas de le dire, parce que les enjeux économiques sont énormissimes, et que aujourd'hui créer ex nihilo son moteur, c'est compliqué. Donc généralement, il y en a beaucoup qui vont aller chercher sur des moteurs bien usités. On a vu sur la génération passée l'importance de l'Unreal Engine. Est-ce qu'il va le garder avec cette nouvelle génération? C'est à suivre.
Très bien. Je vais me tourner vers Rami. Parce qu'il y a quelque chose qui nous a fait marrer cette semaine, c'est un peu le fail de la semaine. Ça vient d'un pays que je connais un petit peu. Ça concerne Metal Gear. Rami, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah là là là, Metal Gear. Mais bon, je vais essayer d'en parler calmement parce que.
Oui, tu trembles.
Il a le cœur qui fait balader.
J'ai qu'un seul pantalon.
Remets-lui sa perfusion, s'il te plaît, Julien. Merci.
Ah, sois fort.
J'ai qu'un seul pantalon de rechange, donc je vais y aller calmo.
Bah, je vais m'éloigner là.
Alors, que s'est-il passé cette semaine, ce mardi exactement?
Bah, on attendait tranquillement l'annonce d'IGN. Qui devait venir le mercredi 4 mars à 15h, qui arrivait malheureusement plus tôt que prévu. Enfin, malheureusement,
Bon, on était bien contents.
Hein. J'étais bien content. Ouais. Et bah, malheureusement, c'est IGN Italie qui a balancé. Enfin, balancé, non, parce qu'en fait, c'est vraiment des internautes qui ont été chercher, dénicher la date de sortie sur, sur le site directement.
Dans le code, ouais.
Dans le code, même. Ouais.
Dans le code, en explorant
c'est
le site. Quoi.
C'est en trouvant la vidéo. C'était ouf, quand même. Et du coup, on a eu la date, le fameux sésame. Enfin, j'ai pleuré des hectolitres de larmes. Et
alors c'est quand la date? Ça sort quand?
Ouais, pour ceux qui seraient sur notre planète.
Parce que là tu fais un suspense là,
je
fais
teasing
là.
À la Kojima. Mais ça sort bah, du coup le 1er septembre. Enfin le 1er septembre ça arrive et du coup,
mais sur Xbox One et PS4 seulement.
Xbox One, PS4.
Parce qu'après
PS3 360.
Ah oui c'est vrai,
parce que les anciennes consoles.
Excuse-moi, je les ai effacées de mon esprit maintenant. Ça y est, j'y touche plus.
Salaud. Pour le PC c'est plus tard. Excusez-moi.
Le PC c'est le 15 septembre.
Très bien, ça on l'a appris le lendemain en revanche.
Le lendemain, ouais.
Le mercredi, au bon moment, parce c'est qu'il y a eu d'autres infos évidemment, qui ont été partagées.
Avec l'édition collector, avec le fameux bras, la prothèse de Snake qu'on aura, avec divers items comme des DLC pour Metal Gear Online, des emblèmes de Snake, magnifique.
Et un making-of.
Un making-of,
ouais. Et dans le making-of du 4 était passionnant, avait vraiment été fait de manière intéressante, où on voyait vraiment même les conflits internes
les problèmes
au sein
de
du développement. Ouais. Ils ne les avaient pas masqués, ils les avaient vraiment montrés. J'espère qu'il y aura cette même franchise, cette même intimité quasiment dans les équipes. Ce qu'on sait, c'est que pour les avoir vus depuis quand même un sacré bout de temps, c'est que ça filme depuis le début du projet.
Clairement,
à chaque fois qu'on s'est rencontrés, on les voyait en train de filmer, etc. Donc ça peut donner un documentaire assez impressionnant.
Peut-être un tout petit peu moins palpitant que celui de MGS4, parce que MGS5, le développement a l'air de se dérouler plutôt tranquillement.
A l'air, ça se trouve, on ne sait pas encore. Tout.
Donc du coup, ouais, c'est un collector plutôt fourni. En tout cas, moi, la prothèse me donne vraiment envie.
T'es un amateur de prothèse.
T'as envie d'une prothèse.
T'es un peu le roi de la
Là, on la voit là, pour ceux qui sont premium dans la vidéo. Ouais, franchement, elle est super bien faite. En plus, les doigts sont articulés.
Ouais.
Mais reste quand même la grande question, c'est quelle est sa taille réelle? Parce que quand on regarde sur les tweets de Kojima, il a l'air d'avoir deux modèles. Le grand modèle qui a l'air méga cool et un plus petit qui, à mon
qui a
avis,
l'air de faire tiep.
Et celui qu'on aura dans la version collector. Hein, quand même.
Ouais. Donc là, ça c'est 99€, c'est ça?
99€, ouais.
C'est déjà en précommande, enfin, si c'est pas en rupture.
En rupture de stock sur Amazon.fr, en tout cas. Voilà.
Et il y a une console aussi, hein,
pour
l'instant, qui a été annoncée qu'au Japon, au moment en tout cas où on parle.
Non. Bah, Kojima a dit dans son dernier Kojima Station que la console pourrait débarquer en dehors du Japon.
Ah.
Mais tout dépend de la demande des joueurs. Si la demande est plutôt forte, elle sortira.
Ça devrait aller. Hein, belle console dorée, bordeaux, noire, avec
une manette
Fox.
En plus,
manette Fox Sound, c'est ça? J'arrive plus à voir le logo qui
Diamond
avait sur
Dogs.
Diamond Dogs, pardon.
Didi.
Et d'ailleurs, l'arrière n'est pas noir. Il est bleuté.
Ouh. Ah bah attends, tu dis quoi?
L'arrière de la console.
Moi je le vois doré.
Doré?
Vous n'avez pas commencé.
Ça va, je plaisante.
Achetez bien.
En tout cas, 1er septembre, je crois que la petite croix est faite par tout le monde à la rédaction.
J'ai fait un V.
Fait un V?
Bah oui.
Tu fais pas de croix?
Bah non, je fais un V.
D'accord.
Et je crois qu'IGN a fait une croix sur l'Italie aussi.
Il y a beaucoup de choses qui vont faire une croix sur IGN Italie, effectivement. Eh bien, on va passer maintenant, et je vais me tourner vers toi, Julien.
Vers toi.
Bonjour.
Le chiffre de la semaine, Julien, quel est-il?
Voilà, un chiffre et non trois chiffres incroyables et magiques.
Trois chiffres, pourquoi
trois? Puisque bah, tu vas voir, lors de la GDC, donc la Game Developer Conference, Sony était tout content, très fier, d'annoncer que la PS4, moins de 2 ans après sa sortie, s'est écoulée à non pas 20 millions, mais 20,2 millions d'exemplaires. Donc c'est quand même un sacré carton.
C'est le meilleur démarrage d'une console de salon de tous les temps, à ce
niveau-là. C'est exceptionnel,
Ah, il me semble qu'on en est là. Et moi, je pense que si je suis même prêt à parier, à me couper la main.
Et mettre la prothèse de
boss. J'y mets la prothèse de boss.
Voilà, regardez, si vous êtes premium des palettes entières de consoles. Bon, ce qui est intéressant vraiment, et c'est pour ça que je vous parlais de plusieurs chiffres, c'est de les comparer un petit peu aux concurrents pour se rendre compte. La Xbox One actuellement serait vers 11,5 millions d'exemplaires. C'est un très beau chiffre à proprement parler, mais quand même quasiment 2 fois inférieur à celui de la PS4, alors qu'elles sont sorties globalement la même semaine dans le monde. Et la Wii U est un peu plus à la traîne encore, avec 9,2 millions d'exemplaires.
Donc, alors qu'elle avait carrément un an d'avance.
Si on additionne les ventes mondiales de la Wii U et de la Xbox One, on arrive grosso modo aux ventes de la PS4. Ça fait quand même réfléchir. En tout cas, ce qui est certain, au-delà de la qualité des jeux, tout ça, c'est un tout autre débat. Là, on parle vraiment de quantité. Et au niveau de la quantité, eh bien, Sony a marqué des points de manière stratégique stratosphérique, le buzz, l'allant des gens. Ils ont choisi la PS4 et dans ce genre de situation, généralement, ce que ça engendre, c'est plus de possibilités d'exclusivité, etc. Pour Sony, donc ce sera bien à suivre, mais enfin, ce qui est certain pour l'instant, c'est qu'ils ont un premier semestre plus rempli que la concurrence. Ça n'en fait pas forcément des bons jeux, mais enfin, ça fait que eh bien, les ventes continuent d'accélérer et ça a l'air de ne pas être prêt de s'arrêter. Hein. Je pense qu'il est temps vraiment pour Nintendo et Microsoft d'annoncer des baisses de prix mondiales, parce que quand Sony va annoncer sa baisse de prix, ça va pas faire ralentir les ventes. Hein.
Certainement pas, effectivement. Merci Julien. Nous allons passer maintenant aux 5 articles les plus lus de la semaine. Attention messieurs,
suspense,
le suspense,
suspense est total.
Total.
Cinquième, PS Plus, voici les jeux gratuits pour le mois de mars. Mmh. Effectivement, ça intéresse toujours de savoir quels sont les jeux gratos, parce que quand c'est gratos, on est content.
Je pense que là, il y a la combinaison de deux mots, il y a le mot PlayStation et gratuit. Gratuit, gratuit, gratuit.
Enfin, gratuit, il faut toujours un abonnement PlayStation Plus, évidemment.
Vous avez vu d'ailleurs dans les options de la PS4, tu peux activer dans tes options PlayStation Plus la possibilité de télécharger automatiquement les jeux gratuits. Si jamais tu oublies un mois, voilà, c'est ton jamais.
On sait jamais, effectivement.
Voilà, donc moi, ils arrivent tout seuls dans ma console.
Et c'est des bons jeux.
Ah bah, je les ai sous les yeux, si vous voulez tout savoir. PS4, c'est Oddworld New and Zesty et Soldat Inconnu. Quand même,
ça, c'est top,
sur PS3, Papo et Yo et Sherlock Holmes, Crime et Châtiment.
C'est
ça
un
va.
Super jeu d'aventure. Ça.
Et sur PS Vita, c'est Oli Oli 2 qui arrive donc directement gratuit avec le PS Plus et Counter Spy.
Ça, franchement, c'est génial. Parce que Oli Oli, c'était super. Mm. J'étais très impatient de voir la suite. Il sort directement gratuit, lui.
Badaboum.
Ouais. Badaboum. J'y joue toujours allongé, moi, Oli Oli.
Oui, t'as raison,
ouais,
oui.
Parce que c'est toujours Oli Oli.
Bref, tu connais l'histoire du lit vertical?
Du lit vertical?
Ouais.
Non.
C'est une histoire à dormir debout. Okay. Voilà, c'était une blague carambar, je m'en souviendrai toujours.
Oh mon Dieu. Bien. Numéro 4.
Oh mon Dieu.
Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer, de la nouvelle transformation de Freezer révélée en vidéo.
Alors c'est passion Dragon Ball. Hein.
Là, dès qu'on parle de Dragon Ball, de toute façon, c'est évident. Vous êtes comme des fous, et surtout quand ça parle de Freezer et sa transformation, qu'on ne vous montre pas, et ben là, vous êtes les premiers à dire oh là là, merci pour le spoil. Voilà. Numéro 3, Zelda Wii U, le kit ou double de Nintendo, un édito signé Bliss, qui pareil vous a fait beaucoup réagir. Certains pensent que oui, certains pensent que non. En tout cas, c'est très intéressant.
Mais déjà, c'est bien, les gens pensent.
Oui, au moins, au moins les gens pensent. Bah, vous auriez pu dire, on s'en fout, arriver comme ça, on s'en fout. Mais en fait, non, vous êtes très très vif dans les
échanges. Mais qu'est-ce qu'il a attendu ce jeu aussi, franchement? C'est peu de le dire. C'est le jeu le plus attendu de la Wii U.
Mais est-ce qu'un Zelda a déjà fait décoller une console de Nintendo? C'est pas les Zelda qui font décoller.
Non, si on parle de volume de vente,
peut-être que Majora pourrait jouer Zelda, parce que je crois que il cartonne pas mal.
Non, il marche bien. Oui.
Et que et qu'il y a déjà des ruptures un peu partout dans le monde.
Oui, oui, mais attention, une rupture, ça dépend du nombre d'unités que t'as mis. Tu sais, c'est comme dire. On a augmenté de 900%. Avant, on faisait 1, maintenant on fait 9.
Des petites New 3DS avec ce jeu, je pense que ça pourrait. Enfin, on verra les chiffres plus tard. Numéro 2, PS4, les jeux PS Plus de mars annoncés demain. Ah bah, incroyable. Incroyable alors. On s'y attendait pas. Et numéro 1, encore une fois, c'est la surprise absolue. Les meilleurs jeux Dragon Ball Z de tous les temps.
Oh,
le dossier avec
Dragon Ball Z,
voire 11 si vous êtes.
Attends, c'était obligatoire, c'est un top. Et c'est Dragon Ball.
Et oui, Dragon Ball évidemment, ça fonctionne à tous les coups. Vous avez
à
été
tous les coups, on gagne.
Voir ça et vous êtes majoritairement d'accord avec ce top, ce qui n'arrive pas tous les jours.
Mais bref, qu'est-ce qui se passe?
Moi je suis pas d'accord avec ce
incroyable.
Top. Moi.
De quoi?
Une semaine incroyable. Une semaine, gens sont d'accord et tout.
Une semaine absolument folle.
La semaine de l'amour.
Et tellement folle qu'on va passer au premier thème de la semaine. Attention.
Et c'est quoi
petit
le suspense
son.
Oh là.
Nous entrons dans la matrice tous ensemble. Vous l'entendez?
C'est le bruit de la matrice.
Moi,
oui, c'est
le
bruit de la matrice.
J'aurais plutôt dit c'est le bruit de ma machine à laver.
Ouais.
Quelques semaines avant qu'elle casse.
D'accord.
C'est d'ailleurs le truc un peu mauvais signe quand même, mauvaise ambiance.
Et bien pourtant, c'est super bon signe parce qu'on va parler de la Game Developers Conference qui s'est tenue du 2 au 6 mars à San Francisco. C'est la réunion d'un peu tout le monde, une espèce de répétition, j'ai presque envie de dire, de l'E3.
Et il fait ce bruit tout du long?
Oui, il fait ce bruit pendant 1 minute 40 si tu veux tout savoir.
On peut peut-être arrêter alors, parce que c'est désagréable.
C'est un peu anxiogène.
C'est toi qui m'as demandé de le mettre.
Non,
hein,
je t'ai parlé d'une musique.
Tu m'as parlé d'une musique.
Bah oui,
il parlait de la musique.
Merci.
Ouais, bah je l'ai pas retrouvé. Bon, bref. La Game Developer Conference, si on résume rapidement, il y a surtout deux choses.
Des cailloux là.
Voir trois.
Vas-y, le son.
Trois qui ressortent. La première, ça concerne la réalité virtuelle, puisque c'est même devenu, de l'avis de certains, non pas la GDC, mais la RVC. Et pourquoi donc?
C'est l'avis de Cliff Bleszinski.
Mon petit Julien, par exemple, il y a eu l'annonce d'abord du casque de HTC et Valve, le Vive, le Vive, Vive, je sais pas comment on va l'appeler comment.
Bah, Vive le Vive, en tout cas, avec une bande-annonce, enfin une espèce de publicité que j'ai trouvé extrêmement bien vu, très bien réalisé et qui présente vraiment la philosophie de ce que va être la réalité virtuelle, c'est-à-dire plonger dans autant de mondes, autant de facettes, autant d'autres réalités que ce qui nous entoure aujourd'hui. Ça va être énorme. Clairement, la réalité virtuelle, c'est le phénomène. C'est pas le petit truc, c'est pas la télé 3D hein, qu'on nous a vendu et machin. Non, c'est un bouleversement incroyable du divertissement dans un premier temps, mais après de la société à tous les niveaux. Il y a un excellent podcast de Gameblog, je crois, c'est ça hein,
oui, absolument,
qui parle de ça, vous pourrez vous y référer. Mais donc, ce qui est certain, c'est que les premiers retours des gens qui ont pu essayer le Vive, donc de HTC et Valve, sont dithyrambiques. Ils parlent de la meilleure expérience de réalité virtuelle qui n'est jamais
eu. Il y a Thierry Henry qui l'a essayé.
Ouais, Thierry Henry, c'est dans la vidéo, effectivement.
Bah, il est à la retraite maintenant, donc bon, il s'est dit, ouais, qu'est-ce qui se passe. Et alors, pourquoi c'est la meilleure
Bah, tu vas nous le dire.
Pour plusieurs raisons, en fait. Vous avez peut-être vu physiquement sur le masque, il y a des espèces de petits éclats, de petits capteurs, etc. Alors, il y en a aussi sur le Crescent Bay, hein. Il y en a aussi sur le Morpheus, on en reparlera dans quelques instants. Mmh. Mais ceux-là sont vraiment multidirectionnels. Et en plus, il y a des petits pods, deux en l'occurrence, qu'on va fixer dans son appartement, dans sa maison, et qui sont avec un tracking laser, donc extrêmement précis. Il n'y a pas de latence, il n'y a rien. D'ailleurs, Gabe Newell, donc le papa de Valve, parle de... Vous savez, il y a des gens qui ont un peu un effet de nausée, etc., avec la réalité virtuelle, parce que parfois, ça, il y a un peu de latence. Là, il n'y en a pas du tout, visiblement.
Ce qui fera plaisir à notre ami Guillaume Delalande, hein, qui est très sujet à ce genre de saleté qui est le motion sickness.
Et donc, grâce à ces petits pods-là, vous allez pouvoir, dans une zone d'en gros 4 mètres autour de vous, vous déplacer, vous mouvoir dans cette réalité virtuelle, et ça va vraiment en fait prendre en considération ce que vous faites avec votre corps, avancer, marcher, vous accroupir, plus que juste je bouge la tête dans une espèce à 360 degrés, etc. Donc l'immersion est encore renforcée. Apparemment, plus la qualité des écrans est meilleure, en tout cas que ce qu'on se connaissait avant. Vous savez, cette espèce de petit effet de grille, si vous avez déjà essayé des casques de réalité virtuelle, là serait globalement gommé. Une fois de plus, hein, on attendra de le voir de nos yeux vus pour pouvoir le confirmer. Mais en tout cas, les retours sont très très bons. Et ce qui est sain, ce qui est très bon, c'est de voir l'ambiance générale qu'il y a entre les sociétés qui travaillent sur la réalité virtuelle, que ce soit Oculus.
Attends qu'ils lancent leur produit.
Oui, mais pour l'instant, en tout cas, parce que là, pour le moment, en tout cas, que ce soit Oculus du côté avec John Carmack, que ce soit Sony avec Shuhei Yoshida, que ce soit les mecs de Valve, etc., tous vont voir ce que font les autres, donnent leurs commentaires, s'entraident, etc., parce qu'ils ont bien compris, pour une fois, alléluia, que l'important, c'est de faire exploser de manière très qualitative dès le début la réalité virtuelle.
Un nouveau marché.
Pour qu'il n'y ait pas d'effet déceptif et que derrière, bah, que chacun se tire vraiment la bourre et s'en sorte le mieux possible. Mais il faut d'abord que chacun de ces casques-là soit nickel, vraiment nickel. Et donc je trouve ça très très sain.
Pour être nickel, il faut pas qu'ils aient de câbles. Il en a le Vive.
Alors le Valve, parce que le Vive a des câbles.
Bah oui, bah tu mets 4 mètres autour de toi. Imagine, hein, parce que là on en parle comme dans un rêve, mais t'as 4 mètres autour de toi, des capteurs, des machins, etc. Mais il y a un putain de câble qui relie ton casque à un PC. Alors à moins d'avoir le PC en sac à dos sur toi. Tu vois,
pour l'instant, hormis HoloLens, tous ont des câbles, hein, le Morpheus, le Oculus,
etc. Non, mais il y a
etc.
aussi. Non, mais moi je pense vraiment au casque où tu mets les. Voilà, c'est ça, le Gear VR.
Le problème pour l'instant, c'est la puissance en fait.
Bah oui, mais les téléphones sont de plus en plus puissants. Regarde, chaque année, Apple, ils vont monter la sauce, etc. Moi je pense que ça a presque plus d'avenir en fait, ces mais trucs-là. Parce qu'il n'y a pas de fil, justement.
Step by step, quoi. C'est-à-dire que la première étape, ça risque d'être ça, mais évidemment, ça va évoluer au fur et à mesure de l'avancée technologique. Il y avait donc aussi Morpheus.
Absolument.
Puisque un an après être monté sur scène, Chouchou, comme on l'appelle, Shuhei Yoshida, revenait on stage à la GDC pour montrer l'évolution, le nouveau prototype de Morpheus. Alors, pas de bouleversement visuel, juste quelques petits affinements. Il y a un peu plus de capteurs sur le côté pour justement, pareil, pouvoir traquer encore mieux vos mouvements. Le casque était un tout petit peu plus léger, etc. Mais surtout, les bouleversements, ils sont à l'intérieur. Ouais. Technologiquement, la résolution a été bien augmentée, mais surtout, la vitesse d'affichage qui passe à 120 Hz, 120 images par seconde. Alors il dit que nativement, il ne l'avait jamais révélé jusqu'à présent, mais la PS4 est capable nativement d'afficher du 120 Hz. Apparemment, il y a aussi quand même, ils utilisent dans des librairies un truc qui s'appelle la reprojection, qui permet de doubler en fait le calcul. Moi, ça me fait quand même un petit peu peur.
Ça sera pour des jeux qui seront moins ambitieux visuellement que ceux qui sortent sur la PS4 actuellement.
Même si,
faire un tel taux.
Les nouvelles démos qu'ils ont montrées.
Il y a des nouvelles démos, London Heist,
exactement.
Qui a été dévoilée.
a vraiment séduit les gens.
Et mais elle était en 120 images secondes, c'est
Non, c'est Playroom qui est en 120 images secondes pour l'instant. The Deep, qui est une évolution de celui qu'on avait déjà vu avec le requin sous l'eau, etc., a été aussi upgradé visuellement. Mais tu as raison, hein. Tu as complètement raison. La PS4, on le sait, n'est pas calibrée, n'a pas la puissance des gros PC qui font tourner la réalité virtuelle de l'Oculus ou du Vive.
Oui, il n'a pas la puissance des PC, ça c'est vrai. Je maintiens
qu'il ne m'étonnerait pas d'une certaine mesure que soit Sony fasse beaucoup de petites expériences assez sympas, ou bien intègre au sein de Morpheus une petite puce de calcul supplémentaire. Mais après, tout sera une question de prix. Hein, c'est intéressant, Yoshida l'a très clairement dit. Il a dit on le sait maintenant, puisque pour l'instant, aucun prix n'a été annoncé. Juste une date, ce sera disponible à partir du premier semestre, enfin au courant du premier semestre 2016. Donc, sinon, pas si longtemps.
C'est que dans un an. Ça va aller vite. Hein.
Ça va aller très très vite. Mais le prix, il a dit on le sait, il faut que le prix, dès le début, soit compétitif et soit fort. Alors, c'est le succès de la PS4 d'ailleurs.
Petit détail supplémentaire, t'es obligé de le dire, mais apparemment ils ont augmenté le champ de vision aussi.
100 degrés.
Parce que c'était l'un des défauts de Morpheus pour tous ceux qui l'avaient utilisé.
Voyait les bords,
on voyait des bords noirs. Alors apparemment on les voit toujours, mais ils sont vraiment dans la zone.
100 degrés, c'est pas un champ complet.
C'est ça. Mais ils sont quasiment plus visibles. Et moi j'ai lu des commentaires assez dithyrambiques sur le net, notamment, tu sais, ceux qui font les tests de nombre d'images secondes, comment s'appelle Digital Foundry, voilà, qui était quasi dithyrambique, quoi. C'était les mecs qui disaient ça change tout, cette nouvelle résolution, ce nouveau taux de rafraîchissement et l'ouverture comme ça du champ de vision.
C'est plus du LCD, c'est du OLED.
Ouais.
Et donc ça veut dire que les noirs sont vraiment noirs, ça veut dire qu'il y a moins d'effets de rémanence ou de flou comme ça quand tu bouges. Donc ça donne une image beaucoup mieux définie. Non mais
apparemment
les gars,
ils ont vraiment sauté un gap.
Imaginez dans 5 ans. Clairement, les gens qui vont acheter les premiers masques de réalité virtuelle, ce sera des early adopters, ce sera des gens qui auront vraiment envie de ça, mais 5 ans plus tard, ça n'aura plus rien à voir.
Pour que ça touche le grand public, il faut sortir du côté un petit peu cryptique, un peu autiste de ça. Et il faut qu'ils mettent des caméras à l'extérieur pour que tu puisses avoir un...
Tu sais que le Morpheus, tu le fais basculer comme ça.
En soulevant, donc
il s'ouvre
tes yeux face en casquette, quoi.
C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça, quoi.
Digital Foundry disait d'ailleurs aussi qu'ils avaient
l'enlever comme ça avec
ils ont aussi amélioré la tenue du casque sur la tête dont on sent quasiment plus le poids apparemment aussi.
Vous imaginez comme ça va vite.
En
2 ans ça n'existait globalement pas.
Ouais, et puis d'un an sur l'autre ils font des progrès considérables.
Je reste quand même un peu sceptique pour l'instant, parce que je me dis que, enfin moi comme je vois, je me dis que c'est un peu gadget pour le moment. Et j'attends vraiment de voir de vraies expériences de jeux qui exploiteront vraiment Morpheus à la PS4 avec de gros jeux et pas des petits titres comme The Deep ou les.
Ouais, pour sortir du côté accessoire.
C'est ça.
Petite expérience de genre petit truc de fête foraine.
C'est ça.
Je pense qu'on va y passer un peu par là au début, mais que vite ça va. Parce que moi j'ai pu essayer rien qu'à l'E3 des jeux actuels. Enfin, genre par exemple, je pensais à Alien Isolation, mais avec l'Oculus en l'occurrence. Et franchement, ça change tout. Ça change tout. Moi je trouve ça très compliqué, même si c'était pas parfait. Après, quand tu reviens sur un écran tout plat, etc., il te manque quelque chose. T'es tellement immergé dedans, mais ça pose plein de questions après et plein de problèmes.
T'as peur
des
crises cardiaques.
Ah ben moi je la vois déjà la news sur Gameblog, première victime d'un arrêt cardiaque après avoir joué à Oculus, machin. Je la vois déjà.
Mais tu l'as déjà écrite d'ailleurs.
Elle est écrite. Oui.
Elle est dans la mine même.
Elle est prête à être envoyée. Je crois que le nom c'est Gianni Molina.
Moi j'aimerais rien mourir comme ça. Hein. Franchement, je préfère mourir
un peu comme Molière, quoi. Il est mort en jouant à la réalité virtuelle.
C'est ça.
Tu me préviendras en filmera quand même.
Ouais, ça j'en doute pas. De toute façon, que t'as envie de faire un snuff movie avec ma mort.
C'est toi qui t'es proposé.
Outre la réalité virtuelle, c'était aussi le moment d'en savoir un peu plus sur les Steam Machines. On n'a pas de prix exact toujours pour ces boîtiers de Valve. En revanche, on a de prix exact.
Enfin, il y en a plein.
Il y a le prix du contrôleur qui est assuré, c'est $50.
Mais si tu vas sur le site officiel des Steam Machines, Valve, etc., t'en as genre plein.
Oui, t'en as des dizaines.
D'ailleurs, je trouve que c'est un peu la jungle, quoi. Tu comprends pas. Enfin, bon, voilà. Oui.
Ils auraient dû mieux unifier le truc.
Ouais. Hein.
Parce que là,
elle reste encore un peu moche.
Ouais, c'est le monde du PC, mec. Hein.
Les Alienware et tout, c'est Alienware, c'est limite la plus jolie, mais enfin, ça reste bon. Un peu Tuning Land. Et puis, t'as plein de gammes de prix, quand même. Mais effectivement, tous n'ont pas été révélés. Mais il y en a quand même déjà plein. Je crois que la moins chère actuellement, je crois qu'elle est à à 400$, quoi, quasiment le prix d'une PS4 Xbox One, mais plus puissante.
En tout cas, la manette.
Et après, ça monte jusqu'à 1200$.
La manette, en tout cas, est hyper intrigante.
Ouais. Bah, ils l'ont surtout beaucoup changé parce qu'ils ont, je crois qu'ils ont compris que juste les deux pavés tactiles,
Donc,
ils ont rajouté de l'analogique, ils ont rajouté des vrais boutons. On peut le voir d'ailleurs hein, là,
elle a une
à l'écran.
Gueule de hibou.
Ouais, un peu.
C'est, regarde, il est là, il te regarde.
Mais il y a quand même un stick, hein. Bon, ça rassure.
Ça rassure. En tout cas, moi je trouve qu'elle a une bonne tronche. J'ai envie de voir justement ce que ça donnera avec les pavés tactiles. Ouais. Parce qu'ils avaient promis hein, que les expériences seraient plus précises, qu'il faudrait s'habituer quand même hein, aussi à cette nouvelle façon de jouer. Mais moi je suis assez curieux de voir ça. Ça arrivera pour novembre. Donc, les Steam Machines, est-ce que ça vous excite un petit peu?
Bah ouais, quand même.
Moi je sais que j'achèterai jamais un PC, mais une Steam Machine pourquoi pas.
Pareil.
Ah oui, parce que alors toi tu te dis que tu préfères avoir une Steam Machine plutôt qu'un PC que tu pourrais faire carrément. Évoluer au fur et à mesure.
Ah ouais, rien à foutre. J'ai pas envie d'avoir un truc où je dois m'asseoir sur un bureau
que je monte moi-même avec une carte graphique que je change plutôt qu'avoir une Steam Machine.
Mais largement.
Sinon j'achète une console.
Mais voilà, et c'est bien la preuve, regarde, 50-50 que ils ont raison de faire ça.
Là on est deux contre un vieux hein.
Non, je suis complètement d'accord
avec aussi toi.
Ouais, c'est vrai.
Putain, la vache, ces alliances.
Putain, il m'a tellement convaincu. Son argumentaire est imparable.
Non, mais il y a des gens qui ont les PC en horreur. Moi, c'est mon cœur.
Ouais.
Voilà. Donc, j'ai envie de jouer à des jeux géniaux qui sortent que sur PC. Et donc, la Steam Machine, c'est l'outil idéal.
C'est
pour
un peu
avoir
l'incursion
accès...
du PC dans le, dans le salon.
C'est pour avoir accès à tous ces jeux géniaux auxquels je peux pas jouer parce que j'ai pas envie d'avoir un PC.
Ces jeux géniaux optimisés, surtout. C'est ça qu'il faut rappeler. Hein, qui sont super beaux et que. Ouais. Et que on n'est pas. Enfin, voyez.
Moi, j'ai rien contre le PC. Hein, d'autant que.
Tous les jours à l'arrêt.
Imagine si c'est moi qui avais dit la phrase de Julio. Alors, attendez, je vais juste vous la faire comme ça. Vous pourrez juste prendre le in et le out. J'ai les PC en horreur.
En horreur.
Mais non, mais moi, par contre, ce que j'ai en horreur, c'est de devoir lancer un OS, mettre à jour mes trucs, cliquer.
C'est bizarre parce que j'ai l'impression que les consoles font ça aujourd'hui.
Blablabla. En vrai, non. En vrai, c'est pas vrai.
Non, mais c'est automatique.
Non, c'est
vrai
que
la PS4 et la Xbox One, elles se mettent jamais.
Non, mais t'as pas les mêmes galères.
Mais non,
c'est
ça qui veut
dire.
T'as
pas les galères, elles frisent.
Mais non, mais j'ai pas avec ma souris. Moi, j'ai pas eu ça, si tu veux. J'ai pas ce genre de galère.
On en avait discuté déjà avec Emery.
J'ai pas ma souris à cliquer, à mettre des drivers de ma carte Nvidia, truc. Muche ou ma carte machin, enfin non, je veux pas ça, et je veux pas un truc énorme et gros et qui souffle et qui machin.
Non, mais en plus,
je veux pas
des patchs Day One de 3 gigas.
Et attendez, les gars,
par contre,
y a pas que ça.
La puissance d'un PC,
mais il y a pas que ça, c'est que avoir un PC de bureau, c'est jouer à un bureau. Moi, j'ai envie de jouer dans mon salon sur ma télé.
Tu sais que les
claviers et les souris sans fil, ça existe.
Ouais, mais d'accord. Mais enfin,
il est où ton PC?
Mon PC?
Il est dans ton bureau.
Bah voilà. Et toi, il est où ton PC?
Moi, j'ai des potes qui ont leur PC à côté de leur télé dans leur salon, etc. Et
pour travailler,
à la manette. Non, mais tu joues à la manette. Mais il y a quand même, tu sais, tu dois quand même booter le truc. D'abord Windows, machin, faire double screen affichage sur télé.
Avec ta souris sans fil.
Ça, j'en veux pas.
Voilà.
J'en veux pas.
Putain,
tu
regardes.
Vous comprenez ça, bordel? J'en veux pas. Par contre,
tu
regardes
ton petit film en 4K. Même si tu veux, avec ton PC branché dans ton salon, tu peux faire des tas de choses. Mais bon, vous préférez les Steam Machines et juste au passage, la Shield de Nvidia, qu'est-ce que ça vous fait?
Ah ouais.
Parce que ça a été montré cette nouvelle version.
C'est une sorte d'alternative à la Steam Machine. Donc en gros, ils ont annoncé une console de salon. C'est une set-top box Android TV.
Et elle a une bonne gueule.
Elle est mieux que la première version.
Elle est minuscule.
La première version, elle faisait un peu.
Et rappelez-vous, il y avait un prototype, enfin en tout cas fantasmé, de la PS4 qui ressemblait exactement à ça, avec un truc un peu en éclat.
Oui, c'est vrai,
machin.
Exact.
Ouais.
C'est vrai.
Et d'ailleurs,
ils l'ont repompé en fait.
Sans déconner.
Non, et donc elle intègre le fameux Tegra X1. Donc c'est pas excessivement puissant comme peut l'être une Steam Machine, mais par contre tout est basé sur le cloud. En gros, les jeux, tu vas les streamer depuis Grid, c'est les serveurs cloud de Nvidia. Voilà, il y a différents jeux qui vont sortir dessus, tous les gros jeux vont sortir dessus, et toi tu vas les streamer dans ton salon. Il y a une manette qui est livrée avec. Ça peut servir également à regarder des films en 4K, et d'ailleurs ils ont annoncé, alors j'ai pas vérifié si c'était vraiment le cas, mais apparemment ça sera la première set-top box Android TV qui sera compatible entièrement 4K, avec tous les formats 4K, etc. Donc tu pourras streamer tes films, tu pourras jouer et tout ça, juste branché sur ta télé, avec bien sûr une entrée Ethernet pour avoir le beau réseau qui va bien et qui t'amène
tu
sur les jeux.
Tu parlais
du dedans.
Cloud, justement, pendant la GDC, on a eu cette petite déclaration de Spencer hein, qui nous rappelait qu'il n'oublie pas, hein, du côté de chez Microsoft, la possibilité de streamer les jeux Xbox One sur PC. Ça vous fait quoi, vous? vous de savoir que vous allez pouvoir streamer des jeux Xbox One avec une Steam Machine.
Moi ce qui me fait peur, c'est une autre citation qu'il a eue à la même période.
Mais non, pas avec une Steam Machine, parce qu'il faut Windows 10, mec.
Oui, c'est vrai, c'est Windows 10 qui
va. Il a dit, avec Windows 10, etc., la plupart des exclusivités arriveront, Xbox One arriveront aussi sur PC. Mm. Et moi, là, ça me fait très peur.
Ouais, tu te dis à quoi sert la Xbox One, du coup.
Bah, exactement. Mm. Ça veut dire, mais à plus d'un titre, ça veut dire que bah, dans ce cas-là, tu prends la PS4 pour les exclus PS4 ou la Wii U pour les exclus PS4 et un gros PC.
Oui,
mais
regarde, parce qu'ils l'idée...
plus beaux que sur Xbox One.
Mais ceux qui ont une Xbox, enfin, regarde, nous, on ne veut pas de PC.
Bah, voilà, l'idée de.
Ouais, mais si tu as les jeux. Enfin, je veux dire, si tu avais Uncharted, je prends l'exemple de l'autre côté, Uncharted sur PS4. Il sera encore un peu plus beau sur un PC.
Oui, mais je prendrais quand même la PS4, moi, perso.
Ouais.
C'est l'idée d'unifier, de jouer sur n'importe quelle plateforme. Hein, je crois aussi qu'elle a été beaucoup mise en avant avec Windows 10. Mais c'est peut-être à Xbox One. Imaginons, tu passes sur ton PC, t'as envie de jouer sur
c'est
ton PC.
C'est plus des vrais exclus.
En fait, tu parles d'intérêt d'avoir une exclusivité sur ta console. Tu parles vraiment d'intérêt d'avoir une exclu sur ta console, tu l'ouvres sur ton PC. Enfin, moi, perso, si j'avais pas la Xbox One et que je savais que. Je sais que les jeux Xbox One vont arriver sur.
Mais attendez, on parle des jeux Microsoft, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'autres jeux sur Xbox.
Enfin, dans ce cas-là, les exclus.
Moi, je vois plus ça comme le côté PS4, PS Vita, tu vois. Passer ton jeu d'une plateforme à l'autre, voilà.
C'est une belle PS Vita, un peu.
Et puis surtout, ça caresse les joueurs PC dans le sens du poil, ça met vraiment de l'envie autour de. Comment il s'appelle, Windows 10.
Mais les joueurs PC, c'est très bien. Mais je veux dire, ils vont pas acheter une Xbox One, du coup. Alors qu'avant, ils auraient pu se dire, je vais prendre Halo.
Ah, le joueur PC va plutôt acheter une PS4,
tu vas pas les faire basculer. Tu vas pas les faire basculer. Ils vont rester avec leur PC. Et ça pose une autre question, c'est l'optimisation. C'est-à-dire, quand tu fais une exclu console, t'optimises. S'il doit aussi sortir sur PC, ils vont optimiser quoi ? Alors, soit la version PC, ça va être une version au rabais, soit la version Xbox One, elle va pas être totalement optimisée. Enfin,
Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir, parce que là, ils le font avec Ori, ils le font avec Fable. Est-ce qu'ils vont le faire avec Halo ? Ça me paraît complètement
scandaleux. Pour moi, faut pas.
Je pense, mais de toute façon, le jeu est pas développé. Il est développé pour la Xbox One. Cela dit, c'est un développement PC, donc bon, je sais pas. Ça serait étonnant quand même de les voir sortir et sur Windows 10 et sur Xbox One Halo 5, quoi.
Effectivement. Un dernier mot sur la GDC, messieurs.
C'était cool.
Okay. Bah maintenant, la PAX East se tient ce week-end. Au moment où on enregistre, évidemment, c'est pas encore déroulé, mais ça se trouve, il y aura peut-être des petites surprises aussi. Ah. On verra. En tout cas, on passe maintenant au deuxième thème. Un thème que Julo va kiffer comme un ouf, parce qu'il y joue depuis quelques jours, il est comme un malade dessus, et il vous a fait un live avec Romain où ils se sont marrés comme des baleines à se faire écraser par leur propre vaisseau.
Ouais, on a découvert la difficulté du jeu.
Divers sur PS4, mais aussi en crossplay sur Vita.
Si et sur PS3. Compris.
Et sur PS3, en fait, il est sur les trois.
Il est sur les trois plateformes Sony en exclu, et figurez-vous que c'est une belle exclu.
Alors,
voilà.
c'est les auteurs de Magica, c'est ça ?
C'est ça.
Qui refont une espèce de Starship Troopers, Cross Destiny.
Ah, c'est totalement ça.
C'est.
Ouais.
Explique-nous.
Alors,
dis-nous tout, Jules.
Donc, c'est un top-down shooter ou un twin-stick shooter. En gros, c'est simple, c'est vu du dessus. C'est multijoueur, on peut jouer de 1 à 4. Et on va naviguer dans des énormes maps et défourailler. Alors, soit des insectes, ça c'est le côté Starship Troopers. Mais il n'y a pas que ça de Starship Troopers dans le jeu, je vais vous expliquer après. Des robots ou des espèces de mélange entre les deux. Et en gros, l'idée c'est de défendre la Super Terre. C'est là où vit l'humanité désormais. Elle est entourée par différentes menaces, donc extraterrestres, et les humains décident d'attaquer parce qu'ils se sentent menacés, et bim, et ils partent aux quatre coins de la galaxie pour aller défourailler. Et nous, dans cette histoire, on est des Helldivers. Alors les Helldivers, c'est quoi ? Les vaisseaux apparaissent au-dessus des planètes menacées, et vous rentrez dans une espèce de petite capsule qui va être projetée sur la planète, et c'est comme ça que vous arrivez dans le niveau avec vos copains. Donc voilà, c'est des plongeurs de l'enfer qui arrivent.
Les plongeurs de l'enfer.
On avait le pitch de l'apocalypse ici à l'époque, on était chez Joypad.
Alors, comme tu disais, on a découvert le jeu en live, vraiment, on l'a branché la première fois avec Romain et avec vous, donc qui regardiez. Et on a compris tout de suite d'où venait l'intérêt, en tout cas l'originalité du jeu. C'est sa difficulté, elle vient de plein de points différents. Notamment.
Elle vient du blues aussi.
Non, mais alors, notamment le friendly fire, parce que c'est un jeu dans lequel le friendly fire est total.
Donc on se tire dessus.
Alors, le friendly fire, c'est quoi ? C'est que dans la plupart des jeux, quand on tire sur un ennemi et qu'il y a son copain entre les deux, les balles passent à travers le copain et vont se loger dans l'ennemi directement. Là, pas du tout. Si vous tirez sur votre copain, il va mourir. Et s'il meurt, vous allez être vraiment, vraiment, vraiment
fâché
dans la mouise.
Oui.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a toujours la possibilité de le ressusciter avec différentes options. Et il faut vraiment rester à 4 parce que c'est très, très compliqué. Et donc, on va vraiment développer des stratégies pour se positionner comme il faut. Chacun des joueurs va avoir du matos sur lui, hein, des gros flingues, des grenades, bien sûr. Mais surtout, des stratégies qui vont être activées par des petites manips façon haut, bas, gauche, droite, Konami Code, Shoryuken, ce que tu veux. En gros, tu appuies sur un bouton et là, tu as toute une série de choses que tu peux faire, genre par exemple, poser une tourelle, demander un bombardement aérien, etc., etc., demander des munitions. Ces choses-là arrivent du ciel. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a du friendly fire aussi pour ces choses que tu ramènes sur Terre. Parce que si tu te retrouves en dessous des munitions que tu as demandé et qui tombent du vaisseau, et bah, tu te fais écraser et tu meurs. Et de la même manière, tu vas demander, par exemple, à ressusciter un de tes amis qui est tombé. Il faut pas rester en dessous. Parce que sinon, ton ami qui va revivre va te tomber dessus et te tuer à ton tour. Donc, il y a tout un stress comme ça dans les missions parce qu'il y a énormément d'ennemis. Et toi, tu dois faire des manipulations haut, bas, gauche, droite, assez compliquées. Dans le feu de l'action pour commander des munitions, des tourelles, etc.
Mais ça concerne essentiellement là le multijoueur, mais
en fait
solo,
c'est un jeu multijoueur.
C'est pas un peu trop dur
en fait. C'est fait pour être joué en multi et tout a été
jusqu'à
fait
4, hein, c'est ça,
jusqu'à 4 et tu peux jouer en local ou en ligne. Et
ça,
ce qui est
cool.
Bien, c'est qu'il y a déjà du monde, franchement, dès le premier jour où le jeu est sorti, je pense qu'il a eu un bon bouche à oreille. Il y a eu tout de suite beaucoup de monde et donc dans ta partie, t'es de base en ouvert. Donc n'importe qui peut venir se pointer, etc. Et toi-même, quand tu es tout seul, tu peux choisir ton niveau, aller dedans et envoyer une balise SOS qui va permettre en fait d'avoir une priorité sur tous les gens qui débarquent en matchmaking et ils arrivent directement dans ta partie. Donc tout est vraiment super bien fait, le jeu est joli, il y a une super ambiance sonore, le gameplay est vraiment réglé comme une horloge, c'est excellent, c'est vraiment fun et la progression du personnage vraiment te donne envie toujours d'avancer et de gagner des points.
Une ambiance volontairement parodique, hein,
une ambiance parodique. Alors c'est ça, c'est le côté Starship Troopers, c'est en gros quand tu tires sur les ennemis, des fois il dit alors tu la sens la démocratie, etc. Ce genre de truc, c'est assez rigolo. Donc il traverse la galaxie pour imposer en fait la démocratie, un peu comme on a fait pour imposer le christianisme dans les croisades, tu vois ce que je veux dire,
un peu conquistador mode,
c'est un peu en mode conquistador et donc il y a un côté Starship Troopers parce que voilà, t'as de l'humour vraiment et puis un côté second degré total de l'introduction du jeu jusqu'à justement ces petites phrases qui sont lâchées en plein combat. D'ailleurs en plein combat il y a aussi, alors tu peux évidemment communiquer avec tes potes. Alors s'ils sont avec toi sur le canapé, c'est facile. S'ils sont en ligne, t'as le micro. Mais t'as surtout en fait avec la croix de direction la possibilité de dire simplement oui, non, on y va, on s'arrête. Et avec ce tout simple, ce mode de communication tout simple, vraiment on arrive à s'organiser, y compris avec des inconnus, des Américains, des gens qui parlent tout un tas de langues que vous comprenez pas. On va pouvoir vraiment communiquer comme ça. D'ailleurs, les gens parlent très peu finalement, et vous pouvez les mettre en sourdine s'ils sont relous, évidemment. C'est une super surprise, Helldivers. C'est vraiment agréable à jouer, c'est fun, c'est hardcore, mais en même temps c'est pas rédhibitoire. Quoi.
Puis là, c'est du pur gameplay. C'est-à-dire que quand t'as fait The Order où il y a pas eu beaucoup de gameplay, et ben là tu te fais ton shoot de gameplay, voilà, comme c'est l'info pour tous.
C'est
les
vraiment l'anti The Order, mais voilà, c'est bon aussi.
C'est complémentaire.
Voilà, complémentaire.
En tout cas, tu m'as donné sacrément envie. Donc, Helldivers qui sort sur PS3, PS4 et PS Vita.
Alors, c'est uniquement dématérialisé, c'est
à
20
quel
balles.
Prix à quel prix
20 balles. 20 balles. Et si vous êtes PlayStation Plus, enfin, c'est 21, je crois. 21 euros, d'ailleurs, c'est un prix que j'ai jamais vu. Je crois que c'est 20,99€, un truc comme ça. Si vous êtes PlayStation Plus, il y a quelques euros de rabais, je crois que c'est 18€, 17 ou 18€. Mm-hmm. Sans déconner, achetez-le, c'est 16€,
euros,
même. C'est 16, me dit Bouffy derrière la caméra. Donc voilà, c'est un bon plan, c'est un super jeu, c'est je crois la meilleure surprise au moins de la semaine, si ce n'est du mois, Helldivers.
Si ce n'est du siècle. Hein.
Nous n'avons
du siècle,
jamais vu ça, jamais.
Bon. Non, franchement, un super jeu, Helldivers, on vous le recommande.
Très bien, et bah, du coup, on va passer maintenant au troisième thème. Je crois qu'on en a déjà parlé, je ne sais plus. Ça me dit quelque chose, c'est un petit jeu.
Je reconnais cette musique en jeune Thérèse.
C'est un petit jeu indépendant, anonyme. je sais plus. On en a parlé quand? Je sais plus. On en a jamais parlé en podcast encore.
On en a parlé il y a 10 ans.
Ouais, il y a 10 ans, exactement.
Quasi 10 ans.
C'est Final Fantasy XV que vous connaissiez il y a 10 ans sous le nom de
Versus 13.
Eh oui, le fameux qui s'est encore dévoilé un peu plus à Julien tout seul en exclusivité mondiale ou pas?
Oh ben, j'étais pas tout seul non plus.
Faut dire les choses.
Mais c'est vrai qu'on n'était pas nombreux et que c'est ça s'annonce. Oh, bon, alors attends, je vais te resituer le truc.
Allez-y, vas-y,
je m'en rappelle. J'étais avec Gia. C'était à l'E3 2006, si je dis
Gia
pas de bêtises.
Gia qu'on salue, hein.
Exactement. Et puis là, conférence Square et c'est parti. Il nous annonce Final Fantasy 13. Waouh! Il nous annonce Agito 13. Waouh! Et il nous annonce Final Fantasy versus 13. Trois nouveaux Final Fantasy en moins de 20 minutes. On était comme ça. C'est un truc de fou! 10 ans plus tard, le jeu il est toujours pas sorti. Bon, il a eu une gestation très compliquée. Vous le savez, Tetsuya Nomura a été écarté du projet. Je pense que ça s'est pas très bien passé. Le jeu est renommé, rebaptisé. Désormais, il s'appelle FF15 et c'est monsieur Tabata qui est à sa main maintenant et et donc pour la première fois j'ai pu y jouer, pas le voir, ça avait déjà été fait, y jouer. Alors j'ai joué à la démo qui sera disponible avec les premiers exemplaires de Type 0 HD qui sortira en France le 20 mars prochain.
La démo Duskae, comme on l'appelle. Duskae,
voilà, tout à fait. Qui est assez conséquente, qui durera en gros 3 heures. Malheureusement, je n'ai eu le droit de jouer qu'à 1 heure. Très frustrant cette histoire. Mais on aura l'occasion d'y rejouer avant sa sortie et de vous en reparler. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter ? C'est une partie des différentes régions du jeu, en sachant que le producteur m'a confirmé que l'ensemble de la région dont se trouve ce bout de la démo, c'est 10, tu multiplies par 10 pour avoir la taille globale du jeu. Et comme vous pouvez le voir à l'image, si vous êtes premium, bon, c'est déjà vraiment gigantesque. Techniquement, tout n'est pas irréprochable encore. Le jeu ne sortira pas avant un an, voire un an et demi, hein, donc il y a le temps. Ils sont pour l'instant sur la version 1.5 du Luminous Engine. Et lors de la sortie du jeu officiel, il sera à la version 2.0. Il y a encore des petites chutes de framerate. L'image est parfois un peu hoquetante quand il y a pas mal de personnages, d'ennemis à l'écran. Mais c'est pas la catastrophe non plus. Mais regardez, moi en termes d'immersion, c'est Red Dead Redemption qui rencontre Jurassic Park.
Et qui rencontre Pulse un peu aussi de FF13.
Exact. Ouais, mais alors avec des volumes sidérants, ouais. Quoi. Moi, ce que j'ai aimé, par exemple, c'est vraiment le travail sur les proportions. C'est-à-dire, vous voyez les créatures, elles sont gigantesques. Quand tu passes en dessous, tu les regardes vraiment en tournant la tête. C'est assez impressionnant.
Un peu comme quand on passe en dessous de Traz à la rédac de temps en temps.
Si du moment que tu passes pas en dessous de ses doigts que j'ai en train de taper sur le clavier, ça va bien. L'ambiance aussi était vraiment mortelle. Il y a de la vie un peu partout. Il y a certaines zones qui sont un peu moins riches, denses, mais ça va encore. Les combats sont très dynamiques, finis hein, les combats au tour par tour. Là, par exemple, on peut jeter son épée comme ça et se téléporter directement là où elle va arriver et enchaîner les coups très rapidement. La gestion de la vie aussi est un peu différente, c'est-à-dire quand vous subissez trop de dégâts et que vous allez arriver à zéro point de vie, c'est pas game over, vous n'êtes pas mort. Alors là, vous allez tituber un peu, vous n'allez plus pouvoir attaquer, vous allez devoir sortir de la zone de combat et là, vos alliés, puisqu'ils sont quatre, vont courir vers vous et vous ressoigner. Ils sont plutôt d'ailleurs assez habiles, adroits, ils gèrent leur vie plutôt bien. Moi j'ai eu une vraie sensation de voyage déjà. Je me baladais, la faune et la flore est assez diversifiée. Le but là en l'occurrence c'était de retrouver un behemoth qui sème le trouble dans cette zone.
C'est lui qui a tes clés de bagnole, c'est ça, non?
j'imagine.
Compris très bien.
Bagnole qui n'est pas disponible dans la démo, hein, qui ne le sera pas, mais plus tard dans le jeu. J'ai pu voir la zone avec les chocobos, etc.
T'as pu jouer un peu de nuit ou pas?
Oui, bien sûr. Alors le cycle jour-nuit est totalement respecté. Et lorsque la nuit tombe doucement, bah, moi j'ai trouvé ça super beau. Vraiment, on voit au loin la forêt qui est assez dense avec le soleil qui se couche. Quand la nuit est là totale, il y a vraiment le ciel étoilé, la voie lactée, la lune qui est très laiteuse.
Ça me donne tellement envie la nuit avec toi,
bien sûr, surtout qu'au feu de camp, camp joue un rôle important.
Ah bah surtout entre les quatre jeunes hommes,
c'est la broforce absolue, la bromance. Et donc tu vas au feu de camp et tu dois en fait cuisiner. Alors en fonction des items que tu trouves, etc. Ça va booster ton XP, etc. Bon, améliorer tes équipements, enfin voilà. Donc le jeu a l'air très riche, très dense. Il y a beaucoup de choses à dire. Et en une heure de temps, j'ai pas pu tout voir. L'endroit où je me suis arrêté, ça passait vraiment en infiltration. J'étais sur les pistes du Behemoth, qui est gigantesque, et avec le bouton L1, si je dis pas de bêtises, on se cache derrière les rochers, et vraiment, on est en mode snake, quoi, de MGS, et on doit pas se faire voir, etc. Là, comme on le voit à l'image, on peut aussi jeter, bah, le voilà le Behemoth. Tu as vu l'impression, la taille, ouais, enfin, vraiment, c'est gigantesque. Il a un œil mort, en fait, un œil qui est crevé, et du coup, il faut jouer avec ça, justement, il faut se mettre du côté de son flanc, là où où il voit pas, pour jouer un peu l'infiltration. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il y avait, même si tout n'est pas parfait en torque techniquement, mais le jeu sortira dans plus d'un an, donc il y a le temps là-dessus, je le jugerai pas là-dessus. Et puis bon, je sais pas, mais ça reste déjà très beau. Les animes étaient plutôt cool. Moi, je trouve ça riche de très belles promesses. Et puis merde, quoi. Ce jeu, c'est une espèce d'arlésienne de l'espace, quoi, au point qu'on commençait à douter vraiment de qu'est-ce que ça allait donner. Et bien, moi, je le trouve sur de très bons rails, et j'ai hâte d'en voir plus. Et je pense que cette démo, elle va donner beaucoup à manger lorsqu'elle sera sortie le 20 mars prochain. Je trouve ça extrêmement
déjà alléchant. Elle fera vendre des Final Fantasy Type 0 HD, ouais, pour commencer. Et puis quand même, après, le, on va dire, le la débâcle FF14 qui a été refait une fois, qui a quand même généré pas mal de stress au sein de Square Enix. Et moi, je me dis 13... que là, ils peuvent plus ce fois.
Même le 13 a quand même pas mal déçu, etc. Oui, avec ses vrais couloirs, mais... etc. Là, on est dans un
monde
ouvert. Mais
ça n'a pas été le même niveau, vraiment, où FF14, il est sorti. Ouh là là, ça va pas du tout, on va le refaire, on va le ressortir, et ça avait fait chialer le producteur, hein, quand même, la nouvelle version de Poison qui marche bien d'ailleurs.
Mais regarde comme c'est beau.
Et
si
je pense
la vidéo là de ce qu'on est en train de vous balancer,
ça va l'air somptueux, absolument.
Non, mais c'est méga beau. Et ah oui, alors attends, juste les musiques, elles claquent, elles sont orchestrales, elles bougent en fonction de l'action, dans les combats, si c'est la nuit, si c'est le jour, c'est pas les mêmes. Énormément d'accords au piano, violon, machin, enfin. Je sais pas, pour moi, le jeu vidéo japonais entre Metal Gear, entre FF15, entre Bloodborne, etc., il est en train de revenir fat comeback, quoi. Vraiment.
Effectivement, il revient un petit peu obèse.
Et puis c'est un style que les Américains n'ont pas. Je suis désolé, mais en termes de direction artistique, etc., c'est pas le style occidental, et moi j'aime beaucoup, je suis très client.
Juste,
t'es un peu émogote,
je ne sais plus ce que je voulais
dire. Alors, tiens, en parlant
d'émogote, t'es un peu Tokyo Hotel,
bah,
dans l'esprit.
Vous pouvez vous en rendre compte, évidemment. Je fais partie de premiers qui, quand j'ai vu un peu la troupe là, qu'on nous sortait, je me disais, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces persos là, avec leurs trucs en cuir noir et
t'es
machin.
À Shibuya, quoi.
Bah ouais. Et en fait, bah, quand tu joues, bon, ça se passe plutôt bien, tu oublies un peu, les mecs parlent non-stop, tu sais, ils commentent les trucs, ils sont un peu ironiques et tout, bon, on commence à avoir un peu l'habitude. Hein,
c'était en jap d'ailleurs au niveau des voix?
Non, non, les voix étaient en anglais et c'était d'ores et déjà sous-titré en français.
Ah, dis donc, moi, comme ça c'est sûr qu'on va pas gueuler sur les sous-titres au moment de la démo. Est-ce que vous avez pas l'impression que ce FF15, c'est un peu comme, vous savez, le petit édito que Bliss a fait sur Zelda, c'est un peu la dernière chance de Square avant le remake de FF7, parce que j'ai l'impression qu'il vraiment, il donne tout pour ce jeu. Mais genre, tout.
Bah, vous pouvez reprendre l'interview que nous a accordé Tabata-san, hein, où il est cash, c'est le cas de le dire.
Tu ne peux pas t'empêcher. Hein.
Non, mais là, c'est spontanément. Et là, vraiment, il explique à quel point, quand ils ont vu des jeux comme Assassin's Creed arriver sur la génération précédente, les bras leur en sont tombés. Ils n'avaient pas le savoir-faire, ils ne savaient pas comment s'y prendre. Ils ont été, mais genre, atomisés, quoi. Ils ont dézoomé. Ils ont fait, putain, mais on est battus, les gars. Et donc, ils ont traîné ça toute la génération dernière. Et dans leur tête, ils se sont dit, la prochaine génération, on va tout donner et on va montrer qu'on est de retour. Et franchement, je ne dis pas que ce sera le cas, mais franchement, de ce que je vois, ils en ont l'envie, ils en ont maintenant la capacité technique, parce que c'est quand même sacrément haut du panier, et il y a quand même quelque chose qui appartient au Jap, qu'ils n'ont que, c'est cette espèce de, je sais pas, de truc un peu impalpable, de mariage entre direction artistique, gameplay, action, machin, qui se marie très bien et qui fait que FF15, bah, moi, il est dans ma top
wishlist.
Ouais, grave, à fond.
Rami, je t'ai pas beaucoup entendu parler, j'ai envie de savoir si t'attends FF15.
Par rapport au système de combat, pour savoir, parce que t'as les potes de Noctis qui le suivent, est-ce que tu peux leur donner des ordres? Est-ce que tu peux, comment ça se passe?
Alors, dans la démo auquel j'ai joué, on pouvait pas leur donner des ordres, ils géraient vraiment leur vie comme ils l'entendaient. En revanche, au niveau du système de combat, avec la croix directionnelle, tu peux passer tac 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 très rapidement pendant que t'es en train de te mouvoir et tout, tu changes en fait les styles d'attaque que tu vas balancer, attaque de zone, attaque piquée, etc. En fait, ton équipement change en fonction des attaques. C'est-à-dire que de base, par exemple, il a une grosse épée, mais si tu prends une attaque piquée, il va prendre une lance, il va disparaître de l'écran, puis chpac, il va réapparaître comme ça. Et avec le pavé tactile, tu peux faire d'autres choses. Enfin, c'est assez riche. Là-dessus, honnêtement, en une heure de temps, d'autant que j'ai essayé de découvrir un peu et tout, je ne suis pas rentré à fond dans le système de jeu,
mais
il a l'air assez varié.
Te connaissant, mais tu n'as même pas fait un combat, je suis sûr. Tu as juste regardé les décors. C'est ça, tu es arrivé près d'un arbre, tu l'as regardé de haut en bas, l'heure était passée.
Blague à part, au début, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, puis là, on nous a fait, dans une heure, c'est fini. J'ai fait, non, attends, qu'est-ce que tu me fais?
Oh là là, le désastre. Mais oui, il faut absolument qu'on se réunisse avant, hein, quand il y a des démos comme ça, les mecs de jeux qui sont super beaux, parce que sinon, lui, il va.
Ah, mais moi, j'ai regardé les flaques d'eau,
les petits oiseaux, les machins, puis à la fin de l'heure, ah bah t'as joué, alors t'as aimé le scénario. Oui.
Alors tiens, d'ailleurs, ouais, oui,
tu as droit à des cinématiques ou.
Alors pas beaucoup.
Juste des dialogues.
Bah pas beaucoup, justement. C'est ce qui en rassurera peut-être certains ou en frappera d'autres. C'est dans ce que j'ai joué, il y avait une petite cinématique, mais pas en image de synthèse, cutscene en temps réel, où en fait Noctis se réveille dans sa tente avec ses potes qui sont là, il faut que tu te réveilles mec, il ouvre la tente comme ça, il y a un méga panorama, et après vite on rentre dans le jeu, et après il papote un peu, il commente tout ce qu'il voit, etc. Il y a des micro cutscene, par exemple on cherche le behemoth, donc par exemple on voit des arbres fracassés, on voit des grosses griffes sur des rochers, et là la caméra arrive, ils font une micro cutscene de je sais pas 20 secondes, etc. Mais c'est pas, pour l'instant en tout cas, c'est pas alourdi, enfin c'est pas coupé non-stop par des cinématiques ou de la cutscene, quoi. Donc le flow
comme
du jeu,
comme un autre jeu sorti récemment
par exemple.
Et tu m'as regardé en disant ah oui, à propos, quand j'ai parlé scénario, tu voulais dire un truc peut-être.
J'en ai aucune idée.
C'est vrai, tu l'as oublié depuis. Oui. Bon, c'est pas grave. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y aura des impressions sur Gameblog.
Elles sont déjà publiées. C'est d'ailleurs pour ça, pour nos premiums. D'habitude, vous savez, on vous balance en avant-première dès le vendredi soir le podcast. Là, c'est le dimanche matin. C'est car on ne pouvait pas parler d'FF15 avant le samedi 21h. Donc, depuis samedi 21h, vous avez mes impressions en vidéo. On vous en montre plus, je vous en dis encore plus. Mais on voulait vraiment mettre dans ce podcast du FF15 parce que bon, c'est quand même la grosse actu de cette semaine.
Ça serait un peu con de pas en parler, effectivement. Allez, maintenant messieurs, c'est l'heure du hors-jeu, et je ne vais pas me tourner vers Julo puisqu'il a séché le hors-jeu de cette semaine. Il n'a fait que bosser et s'occuper de sa femme et de ses enfants. On ne va pas lui en vouloir, mais quand même un
j'ai
peu.
Joué à Helldivers un peu aussi,
et joué à Helldivers. Oui, bon, ça fait c'est
ça, pas, c'est un
pas,
jeu,
ça c'est le boulot, donc après c'est normal. Mais je vais me tourner d'abord vers Julien.
Oh bah Rami, j'ai beaucoup parlé.
Oui, mais j'ai peur que la Real,
il y a un ordre. Est-ce que Poufy peut passer sur le truc? Il le peut. Il est en capacité de le faire.
Alors Rami, tu vas nous parler d'un film. Évidemment, il y a le mot bled dedans. Parce que tu aimes le mot bled, je sais pas pourquoi. Dès qu'on parle de bled,
tu kiffes toujours là.
Ouais, c'est toujours comme ça. Non, c'est Dragon Blade, un film avec Jackie Chan.
Le dernier film de Jackie Chan. Ouais. C'est un film.
Qu'est-ce que c'est?
C'est pour les amateurs comme moi de films asiatiques, c'est un wuxia, un film de cap et d'épée. Où en fait.
Un peu comme un héros, un tigre et dragon.
Un peu ça, ouais. Ils peuvent un peu s'envoler.
Voilà, c'est pas forcément très terre à terre. C'est non, des gens qui rebondissent sur des poteaux et qui fracassent des maisons, quoi.
Et du coup, c'est un peu l'Empire romain qui rencontre.
Attends, mais là, je suis en train de voir la vidéo. Le casting est dingue.
Le casting est dingue, mais alors. John Cusack et
Adrian Brody
sont en l'air un peu perdus dans le film.
C'est vrai?
Ouais.
Ils ont été obligés de parler chinois ou.
Non, pas du tout. Tout le film est en anglais. Et vraiment, c'est une agréable surprise en fait, parce que je l'attendais. Je me disais encore un film de Jackie Chan avec des Occidentaux qui va être sous-traité. Enfin, c'est un film vraiment pas intéressant. Et au final, l'intrigue est vraiment cool.
Ça parle de quoi?
Bah, en fait, c'est Jackie Chan qui, entre guillemets, a un peu route de justicier en fait. Doit protéger la route de la soie.
Ouais. Ah tiens, c'est tombé bien parce qu'on regardait Marco Polo il y a pas très longtemps. Avec,
En regardant les images, ça me le rappelle beaucoup quand même.
Et du coup, les Romains débarquent pour un peu asseoir leur autorité. Et ils se trouvent.
C'est souvent comme ça avec les Romains.
Hein, c'est un peu ça. Voilà. Et du coup, ils vont rencontrer un peu l'armée chinoise, plus particulièrement des Huns à cette époque-là, à l'époque de l'Antiquité. Et donc, du coup, c'est un peu une bataille qui va s'engager entre Jackie Chan et Adrian Brody, qui est l'empereur Tiberius. Du coup, c'est vraiment des batailles qui sont vraiment épiques. Le film est vraiment super, super beau. Enfin,
c'est sorti quand?
Le 22 février.
Putain.
En Chine, ça sortira jamais en France, hein, malheureusement.
Ah bon? Avec un casting pareil?
Ouais, ça sortira jamais en France.
Et donc, t'as fait l'aller-retour en Chine pour aller le voir?
Bien sûr, tout à fait, ouais.
Ok. Ça, c'est un fan.
Mais attends, je pensais que c'est pas une production américaine, c'est une vraie production chinoise.
C'est en fait, maintenant, le marché chinois s'autosuffit, donc il n'a plus besoin d'Hollywood d'exporter ses films.
C'est Hollywood qui vient.
C'est un peu
quoi.
Ça, ouais. Du coup, pas besoin de sortir. des films.
Génial. Bon bah je vais aller en Chine alors.
Bah ouais, on va tous aller à Shanghai vite fait pour aller voir le film comme toi.
Bien sûr, c'est ça.
Dragon Blade donc avec Jackie Chan, Adrian Brody et John Cusack.
C'est ça, tout à fait.
Ça a l'air bien.
Ouais, ça a l'air cool, pas ouais, mal. Mais du coup, c'est étonnant que ça ait été tourné en anglais.
Bah ouais, bah, ça arrive, c'est vrai. Je comprends pas.
Bah,
non plus.
Les films chinois, non, ils sont en mandarin,
mais des films chinois où on se retrouve avec
ceux qui sont produits
langues.
Ouais, mais ceux qui sont produits aux États-Unis, ils sont tournés en anglais. Mais
le prochain film de Jackie Chan aussi, c'est pareil. C'est un film avec des acteurs occidentaux, avec celui qui joue dans Jackass, le perso principal.
Ah,
Johnny Knoxville.
Johnny Knoxville.
Ah ouais. Qui est une réponse à Rush Hour que Jackie Chan désavoue totalement.
Ah, bon ah ouais.
Oui. Donc,
tiens non. Pourtant j'ai toujours ça m'a toujours fait marrer moi les Rush Hour.
Attends, Jackie Chan désavoue c'est les Rush Hour.
Ouais.
C'est, bah, c'est génial Rush Hour.
Bah ouais, c'est pourtant cool.
Parce qu'il dit qu'il a pas eu la liberté qu'il a actuellement. Parce que sur Dragon Blade en fait il est réalisateur, producteur, chorégraphe.
Ah d'accord.
Sur les productions hollywoodiennes il pouvait pas faire ses propres.
Et
cascades.
Du coup ça tue.
Ah, du coup ouais, ça tue.
Bon. Très bien. Ah, eh bien, cool. Écoute, on va se tourner maintenant vers Julien. Et toi,
bonjour.
Tu vas nous parler de quelque chose de très
bonjour,
actuel, très récent,
bonjour.
Encore une fois. Un peu comme Julo d'habitude. C'est quelque chose qui est.
Ouais,
diffusé
je te rappelle que c'est de ta faute.
Ouais, ça a été diffusé. Pourquoi je t'ai prévenu dans les temps.
Ouais, mais ça aurait pu être la semaine dernière.
Ok, c'est vrai. Mais la semaine dernière, t'étais pas là. Donc.
Bah, celle d'avant.
Ok, bah la semaine d'avant.
Ouais, ouais, ouais.
Ok,
ouais, ouais.
Alors, c'est un épisode de Black Mirror qui a été diffusé sur la BBC à Noël.
Tout
c'est
à
l'épisode Christmas Special avec notamment John Hamm qui joue dans Mad Men, qui est Don Draper dans Mad Men.
Tout
et
à
cet
fait.
Épisode t'a bouleversé.
Tout à fait.
Pourquoi?
Bah, parce que.
Ok, merci. On va passer maintenant.
Alors, pourquoi? Eh bien, bon, déjà, vous savez, Black Mirror, pour moi, c'est une série incontournable. Si vous n'avez pas regardé les deux premières saisons, ruez-vous dessus d'une manière ou d'une autre.
Si le mot saison vous fait peur, sachez que c'est une série anglaise et que donc il n'y a que 6 épisodes par saison.
Voilà,
on
a
3 épisodes.
3
et
3
pour
c'est
cette
3 épisodes qui sont totalement indépendants en plus les uns des autres.
C'est
donc,
des films, hein. C'est même
pouvez,
pas
voilà.
Considéré que c'est des films. Ça dure 1h30.
C'est
des téléfilms.
Et 1h30 l'épisode.
Oui, oui, quasiment. Oui.
Ouais. Mais c'est passionnant. Et donc, en fait, ça projette un petit peu dans le futur, mais sans que ce soit un futur trop futuriste avec des
c'est un futur
vaisseau,
immédiat.
Etc.
Ouais.
Voilà. Et donc, bah, cet épisode-là, c'est un peu tous les sujets qui nous passionnent aujourd'hui. L'identité, les données personnelles, comment on gère, comment on bloque les gens. Ah bah regardez, cette séquence, si vous êtes premium, voilà. La nana, là, elle bloque son mec. Mais comme tu sais, sur Twitter ou je sais pas quoi, où tu peux appuyer sur bloquer, mais là, t'es bloqué dans la vie, quoi. C'est-à-dire que à cette époque-là, on aura en fait nos yeux, ce seront des sortes de caméras quoi, sur lesquelles en réalité augmentée, on pourra surimprimer des éléments quoi. Et c'est captivant et glaçant de réalité en fait de ce que ça pourrait être bientôt. Ça pose énormément de questions. C'est vraiment le postulat de cette série, hein, c'est de nous interroger nous-mêmes sur les avantages et les craintes que peuvent enfin les côtés pernicieux que peuvent apporter la sur technologie. Donc moi j'ai trouvé que c'était riche de débats et j'ai hâte que vous le regardiez pour qu'on puisse en parler.
Il apporte quelque chose en plus cet épisode spécial.
Oui. En fait, il est articulé autour de 3 petites histoires dans une grande histoire. Faut vraiment être accroché, hein. Regardez-le quand vous êtes en forme, parce que y en a certaines qui sont bien glauques, mais glauques pas dans le sens, et c'est pas gore, hein, mais glauques dans le sens, c'est pesant, hein. Ça va aller vous chercher bien loin.
Moi, il y en avait un de...
Sur la place de l'intelligence artificielle, sur la place de l'humain dans la société, sur tout ça.
Les réseaux sociaux,
les réseaux sociaux, la légalité, jusqu'où on peut aller, la manipulation, passionnant, passionnant.
Absolument. Moi, j'avais un épisode que j'adorais, que j'adore toujours, qui est le plus glauque pour moi, hein, c'est celui de la nana qui se réveille sans savoir exactement où elle est, ce qu'elle fait, et plein de gens la filme au téléphone. C'est
c'est incroyable. Mais le meilleur pour moi, c'est celui des l'épisode dit des Google Glass, quoi. C'est-à-dire quand il y a plus de lunettes, on t'a intégré directement dans les yeux ce qui enregistre toute ta vie et tu peux rewinder. Tu m'as dit ça hier, mais non, je t'ai pas dit ça. Bah si, regarde, tu m'as dit ça. Clac, tu repasses la vidéo d'hier qui a été entièrement enregistrée.
T'étais au resto, chérie, hier soir? Ouais. T'étais avec qui? Oh, bah un pote.
Vas-y,
tu peux
montre-moi.
Non, bah pourquoi? T'as quelque chose à me cacher?
Voilà.
Bah montre-moi. Ah, T'as effacé cette séquence ? Pourquoi tu l'aurais effacée ?
Ce qui est intelligent dans cette série, c'est effectivement c'est ce que tu disais, c'est du futur immédiat en fait. C'est-à-dire qu'on connaît le projet des Google Glass, on sait à peu près où la technologie va nous mener par rapport à ça, et donc on imagine une histoire.
Bah, si t'as aimé cet épisode-là, sache que ça, c'est au cœur de ce Christmas
du
Special.
Du Christmas Special,
ouais. Okay. Ouais, qu'on vous conseille fortement. Exact. Parce qu'il est vachement bien.
C'est vachement bien, mais toute cette série est vachement bien.
Ah ouais, c'est fantastique. C'est les Anglais sont balèzes.
Produite par Endemol, c'est ça qui est magique. Et l'épisode dont tu parles, les droits ont été rachetés par comment il s'appelle Iron Man,
Tony Stark.
Tony, oui, enfin, l'acteur.
Robert Downey Jr.
Etc. Pour une adaptation au cinéma.
Bah ouais, mais enfin chacun quasiment tous ces épisodes. Moi, il y en a un que j'ai moins aimé sur les six là.
Et avec la politique, avec le petit bonhomme bleu.
Voilà.
Ouais, oui,
et le tout premier qui est pas excellent non plus. Mais... Attends, c'est celui.
Le premier ministre.
Ah non, non, celui-là il est génial. Ah ouais. Non, je parle du mec qui pédale pour faire de l'électricité là.
Ah, c'est bien aussi.
Non, c'est sûr. Non, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé bien, mais trop cliché.
Bon, dis donc.
Sur les visions du futur qu'ils avaient, quoi. Voilà, un peu trop cliché. Bah, tous les autres, je les ai trouvés juste, mais surbrillants.
Tu sais quoi ? Tes paroles sont inacceptables, nous allons te bloquer. Donc, hop, voilà, tu es bloqué. Tu n'apparaîtras plus dans ce podcast, comme on peut le voir d'ailleurs à la caméra.
Très bien, restons sur cet angle.
Je vais te débloquer parce que j'ai besoin de toi, Julo, pour le point concours.
Eh ben, va te faire la repas. Tu peux toujours te toucher, mon ami.
C'est l'heure du point concours, mon petit Julo.
Oui, le point concours
permanent.
Alors, il y a des autocollants pionniers.
Les concours sont gratuits pour les filles à partir de 19h, bien sûr.
Oui, alors, bon, il y a toujours ce concours permanent Joe Vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé la chronique de Joe Hume sur Gameblog avec WeFM,
bah vous avez raté votre vie déjà.
Vous avez raté votre vie, voilà, c'est comme la Rolex. Donc jetez-vous dessus, c'est vraiment super drôle. Et en plus, c'est l'occasion pour vous de gagner des abonnements annuels.
Ah, en plus, il est beau. Oh, quel salopard.
Ouais, James Bond nous avait dit
le mec. Le mec est classe, le mec est bon, il fait chier quoi.
On va lui casser la gueule à un moment.
Trop de talent.
Donc en regardant ces vidéos.
Toi aussi, t'es vachement beau.
Super drôle, merci, c'est vrai. On devrait tous casser la gueule.
Merci, c'est vrai.
Non, j'ai dit c'est.
Non, repassons cette séquence en ralenti. Toi, t'es vraiment trop beau. Oui, merci, c'est vrai.
Oui, merci. Bon, donc, les concours. On peut gagner effectivement des abonnements premium annuels toutes les semaines grâce à Joe dans Joe Vidéo avec une petite question toute simple. Si vous suivez bien chacune de ses chroniques, vous y répondrez sans problème.
Deuxième concours.
Putain, et j'ai
envie de le remettre parce que j'aime bien ce petit jingle. Qu'est-ce qu'on a gagné en décrochant le pompon si je te parle de World of Tanks Generals?
Ah oui, vous pouvez participer à la bêta de World of Tanks Generals. Alors là, il n'y a même pas de question. Tirage au sort, il y a 700 clés d'accès à gagner. Donc bah voilà, jetez-vous sur l'occasion. Alors pour dire ce que c'est, hein, c'est pas un World of Tanks normal, c'est un jeu de stratégie en fait. Donc ils ont repris leur licence phare et ils en ont fait un jeu de stratégie façon Total War, etc.
Voilà.
Très bien, c'est jusqu'au... très bonne question, jusqu'au 12.
Jusqu'au
merci.
12
heureusement que je te l'ai dit avant, j'ai fait exprès de te donner toutes les dates parce que je savais que t'avais ton anti-sèche.
Et il y a un dernier petit concours.
Ça ne sert à donc
et je remets la musique parce que c'est la fête. C'est un concours
parce que c'est la meilleure musique de ton
place
piano en plus.
À l'avant-première d'un film, quel est ce film?
C'est Hacker's Game qui va sortir bientôt. On va vous proposer donc un concours premium pour gagner des avant-premières et aller le voir. Voilà, avant sa sortie, c'est une sortie numérique, hein, c'est pas une sortie au cinéma. Et dans un deuxième temps, là je fais un peu de teasing, il y aura un autre concours avec Hacker's Game, un gros concours où vous pourrez gagner un gros lot. Mais ça, on vous en reparle dans un prochain podcast du coup.
Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose, Julien?
Bah juste dire que pour le teasing, ça sera une console de couleur noir.
Oh, oh,
laquelle?
T'as été trop loin.
Ah, je suis désolé.
Allez, maintenant, on va passer, comme d'habitude, à la fin de chaque podcast.
Oui.
Au petit quiz de la semaine. Et vous savez quoi? Comme
Michael
vous êtes,
Keaton,
comme vous êtes,
ouais, Batman.
Comme vous êtes des brels. Eh bien, maintenant, on a décidé de rabaisser le niveau des quiz.
Ah, enfin, pour les débiles comme nous.
Voilà, exactement. Et c'est donc un quiz qui va être consacré, messieurs, spécialement à la PlayStation 2 qui fête ses 15 ans. Rappelez-vous.
Oui, c'est vrai.
Et justement, je vais commencer
par justement,
la...
lundi, oui. Eh bien, émission spéciale à HL sur la PS2.
C'est incroyable ça. Coïncidence.
Mais,
tu crois ça?
On réfléchit les trucs. On réfléchit.
Ah putain, bien vu. Allez, question numéro 1. Si je vous dis que la PlayStation 2 a fêté ses 15 ans, mm-hmm, est-ce que vous êtes capable de me donner sa date de sortie
Julo
japonaise?
Le 4 mars 2000.
Bravo, Julo. Bonne réponse, un point.
Ah, c'est moi qui fais la news. C'est
pour ça. Oui, enfin, t'étais là aussi à l'époque, hein, hein. Clin d'œil.
Ah, ouais,
ouais, ok.
Question numéro 2.
Ils se comprennent, c'est bien.
Bah, il me trouve beau, il me fait des clins d'œil.
Ah, c'est ça. Voilà.
Date de sortie.
Il va pécho.
Française.
Julo.
Oui.
Le 21 novembre 2000.
Ah. Si tout était dans la même news.
Ah merde. Eh oui, Julo. C'est pas ça.
C'est pas le 21 novembre 2000.
Non, c'est pas le 21 novembre 2000.
Putain.
Oh, c'est dingue, non?
Eh bien, si c'est pas le 21, vu qu'il a fait la news, c'est qu'il a dû se planter de pas beaucoup. T'as dit le 21?
J'ai rien dit.
Il va me falloir une réponse à la
fin. Eh bien, je vais dire le 20... Julien.
Oui.
Le 24 novembre 2000.
Bravo,
oh, Julien.
C'est dégueulasse.
I got it.
Tu vois, c'est tout petit, le c'est mental. Minuscule.
Oh,
c'est
attends, il y a plein de dates autour, hein.
Bravo, bravo.
Ouais, t'as eu du bol en plus.
Non, 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 mais ça me rappelait quelque chose. Il fallait que ça mûrisse.
Question numéro 3. Combien de PS2 vendus dans le monde?
Julo.
Alors, attends. Là.
Bah, oui. Bah, c'est un quiz spécial PS2. J'ai fait une news complète. Qu'est-ce que je t'ai dit?
J'accepte.
Il y avait Jean Bonfray.
Ah non, mais n'importe quoi.
T'acceptes quoi?
Au million près.
Ah ouais, mais alors tu te bases sur quel chiffre? Sur VG Charts? Parce que c'est pas les mêmes selon les sources.
Bah tu vas dire ton truc et puis on verra.
Ah bah non, bah il y a plusieurs chiffres, donc moi je les ai tous, mais il faut juste...
Bah donne-les tous alors.
Alors tu fais le malin. C'est entre 155 et 160 millions, si tu veux les chiffres de VG Star, c'est
bon,
157.
J'avais dit 156, donc
bah, c'est 157.
Bon. Voilà.
Allez. Ah non mais attends, mais c'est un truc de ouf.
Ouais, il donne une fourchette.
Mais moi c'était pareil.
Il a dit 155 et moi c'est 156 que j'avais.
Mais moi j'allais te le dire 156.
Mais t'allais pas le dire parce que t'as pas fait Julien. T'as rien dit du tout.
Mais t'as donné une fourchette.
Fourchette de 5 millions quand même. Fourchette de
le mec il fait une fourchette de 5 millions et ça va. Bah, j'aurais fait
155. Mecs, j'ai écrit la news, je sais précisément, c'est 157.
Voilà, c'est bon.
Non, c'est 156.
Mais de toute façon, j'ai 157 sous les yeux, donc c'est bon.
Mais c'est un truc de fou là, comment on se fait voler la
question numéro 4. À chaque fois, vous êtes conspirationniste.
Non, mais le mec il fait ses règles fluctuantes.
Question numéro 4. Quel est le nom du processeur principal?
Julien. Emotion Engine.
Bravo, un petit point pour Julien.
Je suis déconcentré là.
Qu'est-ce
n'importe
quoi.
Non mais là on se fait voler, Rami.
T'es dégoûté.
Bah oui, on se fait voler. On se fait voler. Le mec prend sa news, il a tout écrit, machin. Putain.
Ça je le savais pas.
Eh, hey, t'aurais dû réviser avant comme avant chaque quiz.
Bien sûr,
tu lis toutes
bien
les
sûr,
news de la semaine.
Évidemment. Bah ouais.
Tu aurais lu la
moi,
mienne.
Je sais pas que le mec il triche.
Question numéro 5. Quel est le jeu le plus vendu?
Julo. Gran Turismo 3. Ah merde.
Eh oui.
Attends.
C'est pas Gran Turismo 3.
Bah non.
Putain.
Julien.
Oui.
GTA 3.
Rami.
Oui.
San Andreas.
Un point pour Rami qui oui. sauve l'honneur.
Dans c'est pas ça, c'est pas le bon titre.
Si, si,
Non, il s'appelle Grand Theft Auto 3. San
j'ai
Andreas.
Comme ça quand j'étais petit.
J'ai l'eau qui veut pas laisser un point.
Il perd un point.
Tu es bloqué.
Il perd un point.
Insulte
au candidat.
Je perds mes 3 points. Là.
Dans les CGU. Perte de points. Non, mais c'est insultant. T'as vu la manière dont il lui parle quand même. Attends.
Oh le chien. C'est le mec qui lâche rien. C'est jusqu'au bout. Là, toi, tu devrais être à la FIFA ou au comité. Tu sais quoi, je suis sûr que le comité espagnol olympique, là c'était toi quand le mec il avait retiré son maillot, c'était toi.
Il a retiré son maillot, faut l'éliminer. Ouais, hein.
C'est pas toi qui a arbitré PSG Monaco en Coupe de France, non?
C'est quoi? Bah non, parce que sinon vous auriez pas gagné.
Bah oui,
t'inquiète pas.
Bon, victoire de Julo pour ce podcast. Bravo à toi.
Merci.
Et surtout,
ça fait longtemps.
J'ai envie de dire merci à vous pour ce nouveau podcast
ouais,
qui s'achève
ouais,
maintenant.
Genre.
Merci Rami, merci Julien, merci Julo.
Ouais,
on se retrouve évidemment la semaine prochaine. N'oubliez pas de commenter
attention
sur les forums, de
nous
dire
pas
si vous avez apprécié ce podcast, s'il y a des sujets que nous avons maltraités. On peut les avoir maltraités,
oh bah,
ça arrive.
On a été maltraités en tout cas.
Je ne sais jamais, il y a peut-être des infos aussi qui sont parues au moment où
c'est
on
vrai que des fois on est maltraité par les sujets.
Oh, aussi, hein. Ça arrive. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast d'actualité. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien.
Ciao à tous.
Ciao.